La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec Sylvestre Maurice, qui est planétologue astrophysicien à Toulouse et qui est spécialiste, entre autres, de la planète Mars et de la recherche d'éventuellement une vie antérieure sur cette planète. Il a commencé à nous expliquer la semaine dernière les caractéristiques de la planète Mars et pourquoi cette planète est intéressante, même si, comme il nous l'a dit, elle est sèche et sans vie actuellement. Donc j'aimerais bien revoir avec lui et qu'il nous explique comment on sait tout ça et avec quels instruments, quel type de caméra, qu'il a d'ailleurs construit lui-même, enfin avec son équipe, on observe tous ces détails de la planète Mars. Bonjour Sylvestre, est-ce que tu peux nous raconter la suite de cette histoire de la planète Mars et de ce que vous faites pour l'étudier?
Oui, bonjour Sylvie. Alors oui, effectivement, Mars, épisode 2, on avait conclu à la fin du premier épisode qu'il y avait un Mars ancien, il y a probablement 3,5 milliards d'années, qui est une planète avec une atmosphère dense, qui avait de l'eau liquide à sa surface, et puis un Mars d'aujourd'hui, qui est une planète qui n'a pas grand intérêt, mais qui a l'avantage d'avoir finalement figé le passé. On s'est donné pour mission de mieux comprendre cette planète, on l'a fait pendant des années avec des télescopes. Et globalement, ça nous arrive encore avec un télescope de regarder Mars, hein, et faites-le si vous avez un télescope. C'est vraiment quelque chose de beau à voir. On peut voir la planète, des petites calottes de glace, de la glace de CO2 qu'on verra au pôle. On a la chance depuis quelques décennies d'avoir des missions in situ, c'est-à-dire des robots qui partent sur place. Donc on a une première stratégie de robots qui était en orbite, hein, ils tournent très vite autour de la planète, ils se mettent à 400 km d'altitude typiquement, et ils ont pris des photos. On est dans les années 90, début des années 2000, on prend des photos et les photos elles-mêmes nous renseignent quand même en disant tiens, il y a de l'eau qui a coulé, on a essayé d'estimer combien d'eau avait coulé, toutes ces rivières. Et puis, on avait aussi ce qu'on appelle des spectromètres qui analysent la lumière réfléchie du soleil dans des gammes un peu plutôt infrarouges. Ils nous disaient « Ah, mais dis donc, ces roches-là, elles ont duré longtemps dans l'eau quand même. » On va appeler ça des argiles, des phyllosilicates. Vous pouvez appeler ça de la boue séchée, c'est pas loin d'être ça. Mais ça veut dire que certaines roches qui étaient plutôt volcaniques au début, une planète se construit de volcans en général, eh bien, à séjourner au fond de l'eau, elles se sont transformées. L'eau est partie, mais la nature de la roche, qu'on appelle la minéralogie de la roche, nous dit, tiens, il y avait telle eau dans le passé.
Et c'est rouge.
Alors, et c'est rouge, oui, effectivement, c'est une planète rouge. Hein. Alors, ça a permis de lui donner son nom, puisque Mars est le dieu de la guerre, puisque c'est la planète que vous voyez rouge à l'œil nu. Et je rappelle à tout le monde qu'elle est facile à voir à l'œil nu. Elle est effectivement rouge, plutôt oxyde de fer. Hein. C'est la dernière phase de l'évolution de la surface, nous donne des oxydes et donc des oxydes de fer. Donc, on la voit à distance. Au bout d'un moment, on se dit, je dis on, collectivement, toute la communauté qui étudie Mars, hein, donc les martiens qui habitent sur Terre, c'est nous, et on décide de se poser, donc c'est difficile de se poser sur Mars. En comparaison, la Lune est presque plus facile parce que des rétrofusées suffisent. Sur Mars, il faut à la fois des boucliers, parce que comme une rentrée atmosphérique terrestre, il faut aussi des parachutes et aussi des rétrofusées, donc c'est compliqué. Et peu de nations ont réussi à se poser. Les Russes ont essayé plein de fois, ça n'a jamais vraiment marché.
Il y a eu des problèmes, hein. Il y en a qui n'ont
pas
réussi,
des accidents, des catastrophes. Les Européens, on n'a pas réussi à se poser, toujours. On a essayé deux fois. Ouais. Les Américains ont énormément de succès, les Chinois ont eu des succès aussi. Donc c'est difficile. On se pose, vous pouvez vous poser d'abord avec des landers, des véhicules qui sont fixes, un peu pataux, qui ne bougent pas. Et les plus célèbres, c'était les Viking 1 et 2. Et puis ensuite, si vous commencez à prendre un peu de technologie, de savoir-faire, vous pouvez faire des rovers. C'est-à-dire que là, vous avez, en français, on dirait astromobile, c'est la capacité d'un véhicule à bouger. Et donc, on a fait tous ces véhicules et en allant in situ, c'est-à-dire sur place, on a pu regarder les petites échelles. Quand vous êtes en orbitale, vous dites l'échelle décamétrique, peut-être l'échelle métrique avec des caméras très puissantes. Quand vous êtes sur la surface, nous, on regarde au micron près. Donc, on va avoir des détails incroyables. On passe beaucoup de temps à décider où on se pose. Parce que, évidemment, si un jour vous étudiez un extraterrestre étudie la Terre, qui se pose au Groenland ou au Sahara, il ne va pas avoir le même résultat. Alors, il y a moins de diversité sur Mars, mais quand même, on réfléchit bien où se poser pour maximiser le retour scientifique, et on utilise des images orbitales pour dire, tiens, là, il y a un lac, il y avait un lac à une époque, bon, le lac est parti, mais c'est là où on va. Et donc, on se pose, et puis on attaque notre science. Alors, on a eu, la science, je dirais, une évolution dans les 25 dernières années, c'est un peu notre âge d'or, on arrive, on est presque à l'âge d'or. Il y a eu une période où tout était construit autour de l'idée de l'eau. Combien il y a d'eau, on appelait ça « suivre l'eau ». Est-ce qu'elle était sous forme de glace, sous forme de vapeur? Est-ce qu'elle était liquide? Voilà, on a travaillé ça les années 2005-2010. Après, à partir de 2010, on a attaqué une nouvelle génération d'instruments qui vont apparaître avec une mission qui s'appelle Curiosity. C'est un rover, c'est une voiture d'à peu près une tonne américaine. Et puis, il y a des instruments de plusieurs nations, surtout un instrument franco-américain qu'on aime bien, que tu as pu citer, Sylvie, qui s'appelle ChemCam. Et là, la mission, c'était l'habitabilité. Donc, on allait plus loin que l'eau. On disait, est-ce que s'il y a eu de l'eau liquide, elle permet le développement de la vie? L'habitabilité, c'est un concept que maintenant, d'ailleurs, on apprend à l'école, je crois, en seconde, première, qui consiste à dire, est-ce que les conditions physico-chimiques peuvent développer la vie? Alors, ça suppose une définition de la vie, là, on ne va pas s'embarquer là-dessus parce que c'est compliqué, mais on sait que c'est une chimie d'un élément particulier, qui est le carbone, donc la chimie organique. Et pour que la chimie organique se développe, il faut avoir de l'eau liquide parce que c'est le solvant de la chimie organique. Il ne faut pas qu'elle soit trop acide, pas trop basique. Si elle pouvait être pas trop salée, ça serait mieux. Et donc, on va chercher s'il y a de l'eau un peu douce, en quelque sorte, des réserves de molécules organiques ou d'éléments de la molécule organique, de la chimie organique autour du carbone, l'oxygène, phosphore, soufre, azote, ce qu'on appelle les schnops chez nous, et puis de l'énergie, vous mettez tout ça ensemble.
Les schnops, je peux interrompre un peu, ce sont les éléments les plus abondants dans l'univers dont nous sommes faits. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre.
Voilà, exactement. Donc nos fameux schnops, et il se trouve que ce sont eux qui font la chimie organique, et ceux de tous les auditeurs sont faits de ces schnops. On y rajoutera un peu de calcium. Nous sommes tous des schnops. Et c'est un fait. Alors, est-ce qu'on va chercher forcément ce qu'on connaît? Là, il y a un autre débat. Mais bon, on pense que la vie, c'est un processus très compliqué qui suppose un encodage, beaucoup de choses, probablement autour de la chimie du carbone. Donc, l'habitabilité, on pose la question à Curiosity, est-ce que la planète est habitable? Le véhicule fonctionne toujours depuis 13 ans et demi, il va mieux que nous, je pense qu'on a plus vieilli que lui, et notre instrument fonctionne, et d'autres instruments, effectivement, dans des articles, alors vous savez que nous, la science part par des publications dans des revues à comité de lecture, on a nos pairs qui vérifient, et puis on passe notre temps à se dire, mais c'est peut-être faux, donc prouvons que c'est vrai, il y a une vraie démarche scientifique, on prouve que Mars était dans le passé habitable. Premier grand résultat, donc là on est dans les années 2000-2015, on se dit, oui, effectivement, il y avait toutes les conditions pour que la vie émerge.
Attends, excuse-moi, vous avez une caméra, tu peux expliquer un petit peu, il y a un laser, il y a quelque chose, comment vous faites pour étudier le sol?
On a plusieurs instruments, et d'ailleurs, quand vous avez une question aussi importante que l'habitabilité, ce n'est pas un instrument qui y répond. C'est tous les instruments, chacun apportant. Nous, notre caméra qui, d'abord, elle regarde, c'est un microscope, elle regarde des détails, et puis elle envoie un laser qui chauffe la matière et qui la vaporise, qui va créer une lumière, ce qu'on appelle un plasma, et dont on va décomposer en longueur d'onde, nous dit, bah, tiens, là, il y a du calcium, là, c'est une caméra chimique. Et puis, tel autre instrument donne un autre type de résultat. On a un instrument, par exemple, qui prélève de la poudre, et puis on fait carrément de la cuisine. On le chauffe à 800 degrés et puis on regarde quels gaz sortent, etc. Donc, on a une charge utile assez complexe qui fait peut-être une centaine de kilos sur la tonne que représente le rover. Ce n'est pas énorme, hein, mais le rover, il est là pour les 100 kilos de la science. C'est vraiment une mission extraordinairement scientifique pilotée par la science. Et ensemble, on dit, ben voilà, tous les résultats, on les a mis ensemble. La planète est habitable. Hein. Alors, c'est un résultat important parce que si on revient à notre vision du système solaire, pour l'instant, aujourd'hui, on a une planète habitable, c'est la Terre. D'accord ? Et puis, je regarde le ciel. On dit, disons qu'il y en a quand même beaucoup des étoiles comme notre Soleil. Il y en a peut-être 200 milliards dans la galaxie. Et puis, il y a des centaines de milliards de galaxies. Il y a beaucoup, beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est en puissance qui vont très loin. Deux soleils. Maintenant, on sait qu'elles ont des planètes, ce qu'on appelle les exoplanètes. Combien sont habitables ? On ne sait rien. Mais moi, je sais qu'à la même époque, il y en avait deux dans le système solaire. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de planètes habitables dans l'univers. Et en fait, ça, là, c'est presque philosophique, ou une petite croyance, qui consiste à dire le 1, on a du mal à l'interpréter. Maintenant qu'on en a deux, je ne vais pas dire que c'est une statistique, mais je regarde l'univers en disant « Ah, dis donc, il y en a quand même beaucoup qui doivent être habitables puisque j'en ai eu deux au même moment. » Mars est sortie de la zone d'habitabilité, c'est-à-dire en perdant son atmosphère, elle ne devient plus habitable. Et d'ailleurs, la mission Curiosity qui continue, qui grimpe en ce moment sur une montagne qui est au centre du cratère où on s'est posé, comme elle grimpe sur la montagne, vous savez qu'en géologie, plus on va en altitude, plus on va vers des moments récents, c'est des empilements de strates, on est en train d'étudier la fin de l'habitabilité. Comment on a perdu l'habitabilité? C'est très très intéressant. En même temps, on dit, bon, on va continuer, puisqu'on a dit qu'il y avait de l'eau, première étape. Puisqu'on a dit qu'elle était habitable, ben, on va envoyer une sonde pour dire, est-ce qu'elle a été habitée? Et donc ça, c'est la sonde Perseverance, une sonde de la NASA, qui va aussi sur...
C'est aussi un rover.
C'est aussi un rover, exactement, qui va aussi sur appel d'offres demander à des universitaires que nous sommes, en disant, qui veut construire un instrument pour répondre à la question, est-ce qu'il y a eu la vie? Et donc, on va répondre et on va être encore sélectionné. Donc, avec plaisir, on construit un instrument qui fonctionne depuis maintenant 4 ans et demi. Ce rover qui est posé depuis 2021 dans un cratère qui s'appelle le cratère Gale. Là, c'est Perseverance. Il n'a pas du tout les mêmes objectifs. On ne va plus montrer l'habitabilité, c'est fait. Bon, on va remontrer, parce qu'on a changé de site, donc on en profite pour refaire un peu la même démarche scientifique. Mais ce qu'on avait en épisode 1 dit, c'est que s'il y a une vie du passé, c'est une vie microscopique parce que l'horloge de Mars a tourné trop vite. Elle a tourné trop vite et donc elle a une vie peut-être d'un milliard d'années ou si elle a eu le temps de construire quelque chose, à l'exemple de la Terre, c'est vraiment petit. Et donc, on va chercher quelque chose de microscopique. Alors, ce n'est pas très facile. On a des instruments pointus. On fait ce qu'on peut, mais dès le début, au moment où on a écrit cette mission, on a dit « mais on ne va pas y arriver ». Alors, c'est quand même compliqué de dire « je vais chercher des traces de vie, mais je ne vais pas y arriver ». Attendez, on est plus malin que ça. On a dit « on va faire ce qu'on peut sur place ». Là, récemment, on a trouvé une roche qui est pas mal. Elle a des trucs qui ressemblent à ce que sur Terre fabrique la vie, mais on ne sait pas trop. Et on va se donner une deuxième corde à notre arc. On va dire, ben, cette mission, elle va faire ce qu'au mieux pour documenter les endroits où on est. Elle va prélever des échantillons et on va les rapporter sur Terre.
Alors ça, c'est vraiment passionnant parce que du coup, on va pouvoir, étudier ces échantillons sur Terre. Mais je crois que nous arrivons à la fin de l'émission à nouveau et j'aimerais bien reprendre ça avec toi la semaine prochaine parce que je crois que les auditeurs vont être en haleine. Donc à la semaine prochaine, Sylvestre.
À la semaine prochaine.